Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, tout de suite le sommaire. Incendie d'un immeuble de 3 niveaux ce matin à la 8e rue Limité Industrielle à Kinshasa. L'origine du feu n'est pas encore bien élucidée. Beaucoup de personnes étaient encore coincées dans le feu et deux qui n'ont pas pu supporter se sont jetées dans le vide. Elles sont mortes sur place. Grogne des enseignants du primaire de la province éducationnelle du Kwilu 2. Ils réclament notamment l'entièreté de leur prime de gratuité, actuellement revue à la baisse. Ils l'ont fait savoir lors de l'assemblée générale organisée lundi à Kikwit par l'intersyndicale de ces enseignants. Et puis, l'invité de ce midi, Paul Nsapu, nouveau président de la Commission nationale des droits de l'homme, il vient de prêter serment d'entrer en fonction avec toute son équipe de 9 membres. Il nous parle des actions prioritaires de sa mandature à la tête de la CNDH. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par ce drame à Kinshasa. Un immeuble de 3 niveaux a pris feu ce matin vers 7h45 à la 8e rue Limété, côté industriel, juste en face du lycée technique de Limété. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Selon des témoins sur place, beaucoup de gens étaient encore coincés dans le feu et deux qui n'ont pas pu supporter se sont jetés dans le vide à partir du 3e niveau et sont morts sur place. Je vous propose ce témoignage de cet habitant trouvé sur place. Témoignage recueilli cet avant-midi.
Le feu a commencé par la toiture. C'était vers 7h45 du matin. Apparemment, quelqu'un aurait laissé son réchaud à gaz allumé. C'est ce qui aurait provoqué cet incendie. Je suis sur place ici. Deux personnes se sont jetées à partir du 3e niveau et sont mortes sur place. Les autres complètement brûlées, mais sont encore à l'intérieur. Nous attendons l'arrivée des responsables pour identifier le nombre de corps à l'intérieur. Le 3e niveau est complètement calciné. Il n'y a plus rien si ce n'est la toiture. On a tenté d'appeler les sapeurs-pompiers. Hélas, ils ne sont pas venus. Nous tentons d'évacuer les gens à l'intérieur, mais c'est difficile. Il y a eu beaucoup de véhicules dans les parkings. On a cassé les vitres pour les éloigner de l'immeuble, étant donné qu'il n'y avait pas le temps d'aller chercher les clés de contact. On a essayé un peu
de clés pour nous. Notez que ce témoignage a été recueilli peu après l'incendie par Blaise Shindani Kambala. Je vous l'ai dit dans les titres, les enseignants du primaire de la province éducationnelle du Kwilu 2 ne perçoivent plus leur prime de gratuité en entièreté. Tenez, sur les 50 000 francs congolais leur accordés par le gouvernement congolais, ils ne reçoivent que 30 000 francs. Pareil pour le réajustement des salaires, ils ne touchent que 30 000 francs sur 75 000 francs congolais. Ces réclamations sont parmi les points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale organisée lundi à Kikwit par l'intersyndicale de ses enseignants. Écoutez à ce sujet Benoît Kassiama, président de cet organe, il dénonce au micro de Irène Boma.
Parmi les points traités, nous avons parlé d'abord de la retraite des enseignants. Nous étions un peu surpris de voir que depuis un certain temps, il y a des rumeurs où l'on donne à l'enseignant 2 millions, 3 millions. Pendant qu'ailleurs, nos camarades de la fonction publique ont été retraités de façon honorable. Cela constitue pour les enseignants une certaine inquiétude. Et nous voulons bien demander au gouvernement de ne pas appliquer la politique de deux poids deux mesures. Qu'on essaye un peu de voir les problèmes de l'enseignant, qu'il soit retraité de façon honorable. Le deuxième point, c'est le réajustement des salaires. Depuis le mois d'avril, le gouvernement avait décidé d'accorder aux enseignants 30% de 250 000 francs congolais, ce qui devrait donner en principe 75 000 francs. Mais depuis ce temps-là, l'enseignant reçoit seulement 30 000 francs. Et il y a aussi le cas des amis du primaire. La prime de gratuité sur les listings depuis le mois d'août c'est 50 000 francs congolais par enseignant. Mais dans toutes nos banques, l'enseignant ne reçoit que 30 000 francs congolais.
Contacté à ce sujet, le directeur provincial de l'EPST Kwilu 2, Espérant Ngotota, dit ne pas être au courant de ces réclamations. Il affirme avoir pris langue avec le directeur de Sécopé qui a fait savoir qu'il n'y a rien de tel dans cette juridiction. Toutefois, le Proved invite le président de l'intersyndicale à se présenter à son bureau avec toutes les précisions sur cette situation. Kasaï-Oriental, signalant le lancement lundi dernier par le vice-gouverneur des travaux de construction et d'aménagement de la route nationale numéro 1, axe compris entre Mbujimayi et Kananga, long de 188 km. Ces travaux sont financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI et exécutés par l'entreprise égyptienne Samkret. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Plus de détails avec François Kadima.
Au cours de la cérémonie, le groupe égyptien Samkret, qui exécute le travaux, a indiqué que cette route sera construite dans le strict respect des normes requises pour une infrastructure routière moderne. L'entreprise Samkret a également rassuré que les travaux ont commencé d'un côté de la route pour permettre la fluidité du trafic routier. Des déviations ont même été créées, affirment les ingénieurs du groupe égyptien. François Pouila, directeur national chargé des projets au Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle, a dans son discours évoqué les motifs qui ont bloqué le démarrage de ces travaux prévu depuis l'année dernière. C'est notamment l'enclavement de la province par rapport à l'acheminement de matériel ainsi que le retard enregistré pour l'obtenir du géotextile. Jules Kalenga, vice-gouverneur qui a lancé ses travaux, a demandé à la population de s'approprier de ce projet qui va bientôt désenclaver la province et permettre l'acheminement de produits manufacturés, des vivriers ainsi que les déplacements des habitants d'une province à l'autre. De Kalenga, François Kadima, Radio Kapi.
Merci de nous recevoir à Bendera, dans la province de Tanganyika. Ici, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en charge de la protection, Kassim Diagne, a remis officiellement la base MONUSCO à la police nationale congolaise. C'était au cours d'une cérémonie tenue hier mardi au camp indonésien de la MONUSCO, et ce, en présence du ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika, du commissaire provincial de la PNC, du chef adjoint des UNPOL, de la chef de bureau de la MONUSCO Sud-Kivu. Cela s'inscrit dans le cadre du retrait progressif et ordonné de la MONUSCO dans cette région, ce qui permettra à la police nationale congolaise de prendre le relais des casques bleus qui ont quitté Bendera après 8 ans. Rachel Kiesembangu était de la partie. Voici son reportage.
Il s'agit d'environ 40 infrastructures, dont 7 zones d'hébergement préfabriquées, 6 bâtiments à parois souples, 3 containers maritimes, 3 salles de bain, un réservoir et au moins 15 climatiseurs installés dans ces installations. Une satisfaction pour la MONUSCO que la transition soit en marche. Rassim Diagne, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies.
C'est une impression de fierté, mais également de réalisation que la transition est en marche. La preuve en est qu'après 8 ans de présence dans cette région de Bendera, nous avons pu remettre officiellement cette base qui permettra donc de faire le relais au plan sécuritaire de tout ce que la MONUSCO a fait comme soutien aux autorités provinciales.
Le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika, Dieudonné Kasika, remercie la MONUSCO pour le travail abattu malgré qu'il reste encore de défis sécuritaires.
Nous remercions grandement la MONUSCO par rapport au travail qu'elle a fait dans la province du Tanganyika. Aujourd'hui, la MONUSCO a fini sa mission. Au moins, elle nous a laissé quelques traces, surtout dans les domaines sécuritaires. Nous leur demandons de ne pas oublier le Tanganyika, parce que le Tanganyika n'oubliera jamais la MONUSCO vu tout ce qui a été fait.
Signalons que la MONUSCO avait mis fin officiellement à ses opérations au Tanganyika depuis juin 2022. De retour de Bendera, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Direction le Nord Kivu. Des violents combats sont signalés depuis très tôt ce mercredi dans la région Kiroliwe et Mushaki, groupement Mufuni Matanda, dans le territoire de Masisi. Ils opposent l'armée et les milices locales aux rebelles du M23 RDF. Des sources à ça qui rapportent qu'une vague de la population des localités environnantes de la région des combats dans les collines arrive déjà à ça qui depuis le matin. Cependant, une accalmie relative s'observe depuis ce matin dans la région de Kishishe et Bambo après des combats toute la soirée d'hier entre le M23 contre les FARDC et les Mai Mai. Restons au Nord Kivu. Le président de la coordination urbaine de la société civile de Beni déplore l'absence des détecteurs des métaux dans certains centres d'enrôlement de la ville de Beni, ce 6 jours après le lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette province. Selon Pépin Kavota, les policiers commis à ces centres sont dépourvus de ces matériels de détection dans une région qui fait face aux attaques à la bombe artisanale. Il recommande aux autorités de renforcer la sécurité des sites d'enrôlement en dotant les forces de l'ordre de ces matériels. André Kitenge pour les détails.
Ce constat a été fait après avoir visité la plupart des centres d'inscription installés dans la ville de Béni, indique le président de la société civile dans la ville. Cet acteur de la société civile pense qu'il est inconcevable que ces centres d'enrôlement soient dépourvus des détecteurs de métaux dans une région qui fait face aux attaques à la bombe artisanale. Pépin Kavota.
Nous déplorons une chose, les policiers commis sur ces centres n'ont pas de détecteur de métaux, ce qui est tellement grave dans la ville où il y a beaucoup de personnes qui dépose des engins explosifs. Allez-vous comprendre que dans la ville où il y a ce genre de comportement de la part de l'ennemi, que l'on puisse avoir des centres d'enrôlement sans détecteur?
Cette inquiétude est partagée par le président de la société civile du territoire de Béni. Ce dernier appelle pour sa part la population à la vigilance accrue dans leur milieu en cette période d'enrôlement des électeurs. Omar Kalicia.
Comme il y a déjà les dossiers de bombes, c'est plus la vigilance de la population. Et comme j'ai toujours dit, ces gens-là qui viennent installer les bombes ne doivent pas nous devancer, nous, population. Nous serons les premiers enquêteurs des services de sécurité.
Tous nos efforts pour joindre les autorités politico-administratives et militaires se sont avérés vains. André Kitenge, Béni Radio Okapi.
Cap sur Bruxelles. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs des Congolais résidant en Belgique a permis à un bon nombre de Congolais de remplir les formalités administratives pour vivre en règle dans ce pays d'Europe. Plusieurs Congolais détenaient des passeports expirés et cela constitue un frein à la participation à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs lancée par la CENI en Belgique. C'est ainsi que les cartes consulaires leur sont remises gratuitement après l'introduction d'une demande écrite par les concernés à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique. Une correspondance de Esther Ndalafina, notre envoyé spécial à Bruxelles.
Pour remplir ses devoirs civiques, on trouve deux catégories de requérants ici à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique. Il y a des Congolais qui sont en ordre avec les documents administratifs et qui sont directement accueillis par le préposé polyvalent commis à l'entrée du centre d'identification et d'enrôlement des électeurs de la Belgique. Témoignage.
Ça fait un mois et demi que le passeport est expiré.
Mon passeport était expiré l'année passée parce que je voudrais être toujours fidèle à mon pays, être toujours congolais.
La deuxième catégorie est celle des requérants désirés d'obtenir les cartes d'électeurs mais dont les passeports ont déjà été expirés. Au niveau de l'ambassade, ces personnes sont accueillies et les démarches sont accélérées pour leur permettre d'obtenir la carte consulaire.
Le passeport est déjà expiré. Mais je puis traiter la carte consulaire. C'est ça qui m'a permis de prendre la carte d'électeur. Je n'avais rien payé. Ça, c'est félicitations.
Signalons que c'est depuis une semaine que l'ambassade de la RDC en Belgique est envahie par les Congolais vivant en Belgique qui tiennent à remplir leurs devoirs civiques à travers l'obtention de leur carte d'électeur. De Bruxelles, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Revenons au pays, précisément en Ituri. 17 personnes sont mortes la semaine dernière dans le secteur de Banyarikilo, territoire de Djougou. C'était dans une attaque attribuée au groupe armé Codeco. Parmi les victimes, 7 passagers pris en otage par ces hommes armés et qui ont été exécutés lundi, précise des sources locales. Ces dernières fustigent l'inefficacité de l'état de siège qui n'a pas permis, selon elles, d'imposer la paix dans cette entité où plusieurs localités sont occupées par des groupes armés. Le récit de Isaac Remoyope.
Environ 20 personnes ont été kidnappées vendredi dernier par des hommes armés au village de Licey dans les territoires des Djougou. Ces otages ont été acheminés vers Niangaraï, présentés comme étant un fief de la milice Codeco. 10 ont été relâchés par leur bourreau et sont arrivés en début de semaine au village de Bouéboué, affirmaient des sources locales. Selon les témoignages des rescapés, 10 autres ont été exécutés par ces assaillants. Les 7 autres victimes sont des passagers qui s'y rendaient la semaine dernière dans la cité minière de Mungwalu. D'après les mêmes sources, elles sont tombées dans une embuscade tendue par ces hommes armés qui les ont conduit au village de Goutsi avant d'être tué. Selon les services de sécurité, les miliciens occupent une dizaine de localités dans cette entité coutumière. Il n'y a aucune présence des forces loyalistes. Le président de la communauté Niali déplore l'inefficacité de la mesure de l'état des sièges. Il demande aux autorités de revoir leur stratégie pour stopper les violences de ces groupes armés. Nous n'avons pas pu avoir la réaction du gouvernement provincial. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Somalie, les forces gouvernementales en plein raid dans le district d'Abdiaziz, dans le nord du pays. Opération intervenue après que 10 civils ont été tués lors d'une attaque revendiquée par Al-Shabaab. Les combattants du groupe djihadiste lié à Al-Qaïda ont attaqué une maison à Mogadiscio et d'autres bâtiments voisins. Soudan, des centaines de manifestants soudanais sont descendus dans les rues de Khartoum mardi, exigeant l'éviction des dirigeants militaires du pays et rejetant un accord conclu à la fin de l'année dernière pour le transfert progressif du pouvoir aux dirigeants civils. Cependant, les manifestants ont été victimes de gaz lacrymogènes tirés par la police anti-émeute. Des affrontements ont également eu lieu entre les forces de sécurité et certains d'entre eux.
L'invité.
Radio Kapi reçoit ce midi le nouveau président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Paul Nsapu. Lui et toute son équipe, composée de 9 membres, ont prêté serment le mardi 21 février, hier donc, pour entrer en fonction devant la Cour constitutionnelle. Paul Nsapu nous parle ici des actions prioritaires sur lesquelles il fonde cette nouvelle mandature de la CNDH. Il s'entretient avec Jeff Ngoy.
Paul Nsapu, bonjour.
Bonjour, Jeff Ngoy.
Vous venez de prêter serment d'entrer en fonction. Quelles sont vos actions prioritaires sur lesquelles vous comptez conduire votre mandature à la tête de la CNDH?
Eh bien, tous les droits de l'homme, toutes les valeurs de dignité humaine pour les Congolais, pour les Congolaises et pour toute personne, disons, qui a ses droits à travers le monde. Là, c'est le slogan. Alors, nos actions primordiale en ce qui concerne le pays, ça sera une diplomatie agissante par rapport à l'extérieur et cela au regard des enjeux de l'heure pour notre pays, notamment la situation d'invasion, d'attaque, d'évasion, tout ce qui se passe surtout à l'est du pays par rapport aux misères, aux peines qu'endure la population congolaise, surtout celle de l'est. Il y a beaucoup de violations des droits de l'homme dans ces conflits, dans ce problème d'attaque de notre pays. Ça, c'est une priorité. Et comme nous sommes en tant que CNDH le porte-voix, nous allons aussi apporter la voix du peuple congolais par rapport à ses droits à travers le monde. Voilà, c'est qui est prioritaire pour le moment et de l'intérieur, nous allons travailler en parfaite collaboration avec les autres institutions. Nous allons travailler pour que le droit du Congolais soit démis dans la gestion de notre pays par ceux qui ont la charge de veiller à ce que le peuple congolais ait la vie, ait la possibilité d'accéder à tous les besoins de base et même des besoins liés par rapport à l'évolution technologique. Nous allons veiller pour ça. Nous venons renforcer ce qui existe déjà, parce qu'on a vu dans la volonté du chef de l'État, il veut placer l'homme et la femme congolais ensemble, les deux, au cœur de sa gestion. Mais il y a encore des problèmes, comme vous le savez, par rapport aux droits civils et politiques et par rapport aux droits à effet indirect, puisque ça demande des moyens. Mais on a senti cela. Nous venons donc renforcer cette vision et aider à ce que les choses se passent comme il se doit.
La CNDH, qui est un organe de surveillance, de promotion des droits de l'homme, ce n'est pas un organe d'exécution. Et parfois, ce sont des rapports qui ne sont pas, ou des recommandations qui restent des lettres mortes, qui ne sont pas exécutées. Comment comptez-vous vous y employer?
La CNDH, c'est une institution certes indépendante dans son fonctionnement, mais qui a aussi le rôle très important à jouer. Le rôle d'ombudsman, le rôle de modérateur de la République pour conseiller les dirigeants des structures à mieux servir la population par rapport à ses droits. Alors, c'est un peu de la sécurité sociale que doit jouer cette institution. C'est vraiment le sens du rôle que cette institution doit jouer. Je vous surprends que cette institution peut être en justice lorsque les partis qui se sentent lésés la saisissent, que ce soit des individus, que ce soit des personnalités morales. Et nous pouvons être en justice en faveur de ceux qui se considèrent comme étant attaqués dans leurs droits. C'est un travail immense. On a vu les structures qui sont là.
Et vous dites bien un travail immense. Vos prédécesseurs se sont beaucoup employés à monitorer la situation des droits de l'homme dans les milieux carcérales. Et c'est aussi une de vos missions. Mais on assiste aujourd'hui à la surpopulation carcérale, la promiscuité, la vie qui n'est plus humanisée dans nos prisons, avec le dérapage des magistrats. Comment comptez-vous régler ces problèmes? Il y a des embûches, certes, qui se dressent